7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Votre métier est-il menacé par l'intelligence artificielle ?
Bon, bah c'est vrai qu'une machine qui présente une émission n'a pas de problème de voix enrhumée par la climatisation, pas de risque de quinte de toux. Bref, on en rêverait presque d'un robot pour présenter une émission. Alors, quels sont les métiers menacés par l'intelligence artificielle? C'est notre sujet aujourd'hui. L'OCDE estime que près de 14% des emplois sont menacés d'ici 20 ans. D'autres études parlent de 40% des emplois robotisables au cours des 10 prochaines années. Faut-il s'en réjouir en se disant que les tâches ingrates seront remplacées par des machines, ou bien faut-il s'inquiéter pour une partie de la population qui ne pourra pas s'adapter à l'ère numérique? Et dans ce cas, est-ce que cela risque de créer des conflits de société? Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour Benoît Tonson.
Bonjour.
Vous êtes journaliste science et technologie pour le site The Conversation. The Conversation qui est un site d'information réalisé à partir de travaux de recherche.
Exactement, on essaye de soit d'éclairer l'actualité générale par les travaux de la recherche, soit d'expliquer les travaux de la recherche au grand public.
C'est ça, mais toujours sur des sujets qui nous touchent tous de près ou de loin et de manière très accessible. Également avec nous Laurence De Villers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne et dans un laboratoire au CNRS. Et vous avez publié Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités chez Plon. Alors on va essayer de décoder un peu tout ça. Ces mythes, tous ces fantasmes et ces réalités. Thierry Veil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des enjeux de l'industrie dans un laboratoire qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie. Forcément, vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. À l'école des mines Paris Tech, un exemple de métier fortement touché par l'intelligence artificielle, on pourrait en citer plein, mais la traduction des langues fait partie de cette liste. Nous serons en ligne avec Patricia Glazel, qui est directrice du département de formation linguistique et management interculturel chez Transperfect, qui est le leader mondial de la traduction. Et puis Frédéric Ojardias, notre correspondant à Séoul, en Corée du Sud, nous parlera des entretiens d'embauche filmés avec un logiciel qui pose les questions à la place du recruteur. Problème, les candidats doivent s'entraîner à dialoguer avec une machine, ça s'invente pas. Et quant à vous les voisins, si vous avez le sentiment ou la certitude que votre métier pourrait être menacé par un logiciel, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 70 71. C'est aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous laisser des messages et nous appeler gratuitement. Je vous lis quelques réactions d'auditeurs. Mamadou, il est guinéen, il est en France et il dit « Moi, je comprends que l'homme ait peur de l'évolution de l'intelligence artificielle. Ça a été la même chose au début de l'informatique. On nous disait que l'informatique allait détruire des emplois, mais finalement, c'est le contraire qui s'est produit. Il est certain que l'intelligence artificielle va créer des emplois plus qu'elle n'en fera perdre. » Est-ce que c'est votre point de vue, cette comparaison avec le traitement de texte, par exemple, Thierry Veil ?
Oui, enfin, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des tâches qui vont disparaître et de nouvelles tâches qui vont apparaître. Comme c'est beaucoup à chaque fois, le bilan entre une grosse augmentation et une grosse réduction, on ne sait pas toujours dans quel sens il va. Mais je crois surtout, vous avez cité des rapports...
La comparaison avec l'informatique et le traitement de texte, ça vous semble finalement l'intelligence artificielle serait une révolution de plus par rapport à celle qu'on a déjà connue?
En fait, c'est une bonne comparaison que votre auditeur a pris, puisque si on prend... Il y a 30 ans, il y avait des sténodactylographes,
oui, oui.
C'est-à-dire des gens qui étaient capables, avec un langage de signes assez compliqué, de prendre sous la dictée, je le dis parce que ce sont des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et étaient capables de prendre rapidement en dictée un texte et ensuite le taper sur des machines à écrire. Bon, il est clair que
la sténo n'est plus enseignée, non ?
N'apprend la sténodactylographie et les gens qui étaient sténodactylographes n'ont pas forcément perdu leur emploi, mais ont cessé d'utiliser cette compétence et que cette tâche a disparu. Mais elle a disparu aujourd'hui, parce qu'il y a des logiciels de dictée automatique qui commencent à bien fonctionner, mais elle avait déjà disparu depuis 25-30 ans quand il y a eu des traitements de texte et que les gens qui autrefois recouraient au service de sténodactylographe se sont mis à faire directement leur courrier parce que c'était... C'était beaucoup plus simple, facile plus à maîtriser.
Awal nous envoie ce message. Dans certains domaines, moi je préfère l'intelligence artificielle qui est honnête et transparente comparée à des humains avec des comportements irresponsables. Par exemple, nous dit Awal, dans les stations-service, quand je dois prendre de l'essence, je préfère l'intelligence artificielle aux employés qui trafiquent le carburant et tripotent le compteur. Ça vous fait sourire, Laurence de Villers ?
Oui, parce que on prête à l'intelligence artificielle beaucoup de choses, hein, et en fait, il y a beaucoup de systèmes où il y en a pas déjà.
Quand tu dis que l'intelligence artificielle n'a pas d'arrière-pensée.
Bah non, en fait, c'est pas pensée. Ça. C'est que on prétend que certains systèmes sont bourrés d'intelligence artificielle, ils ne le sont pas. Donc déjà, il faudrait savoir de quoi on parle. Et puis dire qu'elle est transparente, l'intelligence artificielle, et qu'on a forcément quelque chose de plus honnête, n'est pas non plus juste, puisque ce sont des humains qui la font.
C'est vrai aussi, ceci dit, que la lutte contre la corruption passe par la technologie. On le voit dans l'informatisation. Oui. Je ne sais pas quel est le degré d'intelligence artificielle là-dedans, mais quand on informatise les services de douane, c'est le cas sur le continent africain, et quand on informatise les rentrées de marchandises dans les ports, eh ben évidemment, ça limite les possibilités de corruption.
Non, ça c'est clair, mais l'intelligence artificielle, c'est pas ça. C'est une machine qui sait prendre des décisions à partir de modèles que les humains lui ont donnés. Donc on peut trouver des humains qui ont envie de tricher aussi.
Ça vous convient comme définition à tous les trois, donc l'intelligence artificielle, une machine qui sait prendre des décisions, sous-entendu un peu à notre place.
Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et je pense qu'on a raison de soulever le fait qu'il y a toujours un ou des humains qui sont derrière et qui peuvent absolument corrompre la machine s'ils en ont envie.
Vous nous appelez les voisins, les voisines. Alors, nos métiers vont-ils disparaître à cause de l'intelligence artificielle, ou comment vont évoluer nos métiers ? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Benoît Tonson, 4 Français sur 10 ont peur de l'intelligence artificielle. Je suis sûr qu'on retrouve d'autres chiffres similaires ailleurs en Europe, dans les pays développés. Ils ont peur que leur travail ne soit remplacé par une machine. Est-ce que vous croyez à une fourchette haute de destruction d'emplois, une fourchette basse ? J'ai cité les chiffres, les estimations vont de 14% à 40% d'emplois détruits. C'est autant dire qu'on navigue à vue.
Moi, c'est vrai que j'imagine assez mal des emplois qui disparaîtraient complètement à cause ou grâce, selon le point de vue dans lequel on se place, à l'intelligence artificielle. Plutôt certaines tâches, finalement, tout ce qu'on peut imaginer d'automatisable, à mon avis, est appelé à le devenir. C'est-à-dire prendre envoyer un email de réponse. Pourquoi pas l'automatiser, puisque l'intelligence artificielle pourrait comprendre les phrases qu'on nous demande, vérifier, par exemple, si je reçois un mail, on me dit « Est-ce que vous êtes disponible demain, 14h, pour un entretien ?»
Je regarde mon agenda.
La machine le regarde. Il n'y a rien. Oui, je suis disponible. Hop, c'est renvoyé. Mais je vois mal des métiers totalement disparaître grâce à la machine.
Alors, ceci dit, il y a eu une étude du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis qui a estimé que 3000 véhicules autonomes et collectifs à New York pourraient remplacer 14 000 chauffeurs de taxi. On dit aussi que les autoroutes connectées avec des camions autonomes aux États-Unis, ça pourrait faire perdre leur emploi à près de 500 000 chauffeurs de poids lourds. Donc là, on parle bien de métiers qui disparaîtraient, non, Laurence de Villers ?
Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des chauffeurs de taxi ou de routiers pour dire que c'était le premier type d'emploi qui allait disparaître. Pour l'instant, on est encore à se demander quelle est la fiabilité totale des systèmes qu'on va embarquer dans les voitures et dans ces systèmes. Si c'est des trains de voitures, c'est absolument possible. Si c'est sur des circuits prévus, en tout cas, c'est possible. Sinon, il y a encore beaucoup de doutes sur la robustesse des performances de l'intelligence artificielle qui va faire de temps en temps des erreurs que l'on n'a pas du tout prévues. Et du coup, confondre peut-être là un humain qui sera responsable avec un nuage ou je sais quoi. Donc, qui va être responsable derrière ? C'est un sujet très compliqué qui n'est pas encore totalement débattu.
Et dans l'industrie, Thierry Veil ?
D'abord, je vais répondre pour l'industrie, mais on a évoqué deux choses. Vous avez évoqué la peur que 4 personnes sur 10 auraient de l'intelligence artificielle ou des robots. Je pense qu'il faut distinguer 3 sujets que souvent on mélange. Il y a l'impact de tout ça sur l'emploi. Est-ce que, oui ou non, il va y avoir plus ou moins d'emplois? Il y a l'impact de tout ça sur la nature du travail, qui peut être très différent, parce que je peux conserver mon emploi comme la sténodactylographe que j'évoquais, mais ne plus utiliser certaines de mes compétences et ne plus réaliser certaines tâches. Et puis, il y a l'impact sur la vie quotidienne, en tant que consommateur, en tant que citoyen. On peut avoir différents types d'appréhensions sur ce que va devenir un monde où il y aura beaucoup plus d'automatisme
c'est
et d'intelligence
artificielle. Là, on parlait bien de l'appréhension en termes peur de perdre son job. Hein. C'est oui, bien oui. Ça qui nous intéresse aujourd'hui.
Mais peur de perdre son job, vous avez cité des chiffres, alors j'ai même encore plus d'écart que vous, vu que moi ça va de moins 5% à plus 10% ou plus, moins 50% c'est quasiment l'étude de Frey Osborne.
Et comment on peut être en dessous de zéro, je comprends pas là, expliquez-nous, moins 5%.
Ah non, 50% de gens qui perdent leur emploi, ou au contraire, une augmentation d'emploi qui fait qu'il y aurait plus d'emplois demain qu'aujourd'hui. C'est ce que dit un des rapports de McKinsey sur les robots et l'intelligence artificielle.
C'est ça. Le résultat des courses, on ne le connaît pas à l'heure actuelle.
On ne le connaît pas, mais il me semble qu'il faut distinguer le fait d'avoir son travail très fortement impacté par la présence de robots ou par des outils d'intelligence artificielle. Et ça... pifométriquement, je dirais que c'est effectivement probablement une majorité de gens, en fait, et au moins 50% qui vont voir leur travail quotidien impacté, et le fait d'être à fort risque de perdre son emploi parce qu'il était composé quasiment exclusivement de tâches qui peuvent être automatisées, qui, lui, concernerait plutôt une dizaine de pourcents, ça varie selon les estimations.
Est-ce qu'on peut citer, donc moi j'ai donné les exemples dans le transport, est-ce que vous pouvez nous citer des métiers qui vont être amenés à être très impactés, voire à disparaître dans les métiers peu qualifiés?
Alors, c'est paradoxal, parce que vous citiez le transport, c'est pas ma compétence, mais revenons-y. Au moment où il y a Uber, c'est-à-dire non pas de l'intelligence artificielle, mais les plateformes numériques, les chauffeurs de taxi ont été tétanisés en disant « on va tous perdre notre boulot ».
Et en fait, ils n'ont jamais été aussi nombreux au total.
Il n'y a jamais eu autant d'emplois liés au transport de personnes, que ce soit des VTC ou des chauffeurs de taxi, dans Paris, qu'aujourd'hui. Parce que la plateforme permettait de les répartir là où on avait besoin d'eux.
Alors en dehors du transport, est-ce qu'on peut citer d'autres exemples?
Oui, c'est plutôt la traduction qui va... Tous les métiers, en fait, dit plutôt...
Je parlais des métiers peu qualifiés, là. Est-ce qu'on peut... les caissières de supermarchés, est-ce que vous voulez bien nous donner des exemples? Parce que c'est quand même votre spécialité.
Oui, alors les agents de caisse, effectivement, peuvent disparaître. Les pompistes, depuis longtemps, ont disparu parce que les gens préfèrent payer leur essence quelques centimes de moins en se servant eux-mêmes que de rémunérer...
Non, mais là, dans les métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle, dans les métiers peu qualifiés, qu'est-ce que vous nous citez?
Dans les métiers peu qualifiés, je ne pense pas que l'intelligence artificielle, plutôt les robots et les automatismes qui actuellement ont un fort impact sur les métiers non qualifiés. L'intelligence artificielle, quoi qu'on pense du terme intelligence, a plutôt tendance à piquer des jobs qu'on considérait comme très qualifiés.
La vidéosurveillance, par exemple, avec la reconnaissance faciale, tout ça, est-ce que ça ne va pas impacter le travail des vigiles, notamment?
Moi, je pense vraiment qu'il faut voir il faut arriver à découper le travail en tâches. C'est vraiment des tâches qui peuvent disparaître. Et typiquement, là, l'exemple que vous donnez sur la reconnaissance visuelle, ça marche relativement bien. Et là, globalement, c'est peut-être que l'opérateur n'aura plus à regarder 50 écrans en même temps. L'intelligence artificielle va plutôt lui pointer, tiens, regarde, là, c'est peut-être la personne que tu cherches, donc vérifie.
Là, il a un sac à dos un peu gros, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il n'aurait pas volé des objets dans
exactement.
Le magasin?
Exactement, ça va plutôt être une aide, je pense, dans ce cas-là.
Nous sommes en ligne avec... Non, on ne l'a pas encore. Bon, on va bientôt parler de la traduction. Mais vous nous disiez, en fait, c'est finalement plutôt des métiers qui vont être... des métiers déjà qualifiés, à valeur ajoutée, qui vont être davantage impactés que des métiers très peu qualifiés. Laurence de Villers.
Oui, si on est effectivement traducteur, on va changer de métier sans doute. Et si on est plombier, on ne changera pas de métier. Parce que faire un robot qui est capable de faire le travail du plombier et s'adapter à toute situation dans notre vie réelle avec un environnement extrêmement complexe, c'est très difficile. Et donc, c'est une autre façon d'imaginer les choses. C'est l'automatisation, le calcul. Ça, une machine saura très bien faire. Mais dès lors qu'elle est dans un environnement qui est très différent à chaque fois, qu'elle doit s'adapter, elle n'a pas cette intelligence du tout.
Et par exemple, sur les marchés financiers,
Ça c'est facile, oui, on peut mettre des machines.
C'est déjà le cas, ça commence.
Sauf est-ce souhaitable ? Non mais bien sûr c'est le cas depuis longtemps en fait, de bots qui prennent des décisions avec des temps de réaction extrêmement faibles. On a vu que ça arrivait aussi à beaucoup d'erreurs fondamentales. Donc on est en train quand même de réviser cette idée d'automatiser sans comprendre quel va être l'impact derrière.
L'impact sur les tâches peu qualifiées en entreprise, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais il n'y a pas énormément d'impact sur l'emploi, parce qu'empiriquement, on s'aperçoit que dans les PME qui, par exemple, achètent un premier robot, on pourrait dire, on remplace un poste qui était occupé par un individu, par un robot, donc on va virer quelqu'un. En fait, en grande majorité, ces entreprises ont embauché et accru leur emploi. Pourquoi ? Parce que comme les robots leur ont permis de faire des gains de productivité, elles ont augmenté leur part de marché, leur chiffre d'affaires, et en moyenne, l'augmentation de chiffre d'affaires va plus vite pour ces entreprises que l'augmentation de productivité liée aux robots.
Ouais, c'est pas vers ça qu'on se dirige pour les supermarchés, par exemple, avec des caisses automatisées.
C'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y a un remplacement quand même d'humains par des machines. Et puis, on le voit très fortement en Corée, en Chine, au Japon, avec des retours en arrière, d'ailleurs. Ils ont fait des usines avec que des robots, en se disant, ça va être génial, on remplace tout le monde. Et puis, ils reviennent en arrière sur cette idée de cobotique, d'avoir à la fois des humains et des robots, parce que c'est grâce à cette complémentarité entre les deux, qu'on va aller vers une plus grande puissance économique.
Alors, on parlait des métiers qualifiés. Justement, je voulais qu'on donne l'exemple de la traduction. Nous sommes en ligne avec Patricia Glazel, qui est directrice de la formation linguistique et du management interculturel chez Transperfect. Bonjour Patricia Glazel.
Bonjour.
La traduction, on le disait, c'est un des métiers qualifiés qui est en train de se transformer avec l'intelligence artificielle. Tout le monde a déjà vu, au moins dans les médias, des logiciels qui sont capables de traduire en temps réel des conversations qui sont utilisées par exemple dans le tourisme. Quelles sont chez vous les tâches de traduction qui ne sont plus effectuées par des humains ?
Alors effectivement, j'ai entendu vos échanges et c'est passionnant. Pour vous rassurer, d'une certaine manière, en étant numéro un mondial de la traduction, je peux dire que le sujet de l'intelligence artificielle nous passionne plutôt qu'il nous effraie. C'est vrai que quand on fait faire des traductions par les systèmes, les principaux systèmes de traduction, on s'aperçoit encore aujourd'hui qu'on peut accorder 28 points sur 60, j'ai pris une étude au PIF, aux machines, alors que les êtres humains obtiendront des résultats de l'ordre de 50 sur 60, donc une performance bien meilleure. Alors, on a eu des systèmes technologiques qui ont énormément évolué, il ne faut pas se voiler la face. Et pour en revenir à la perte d'emploi, ce que ça m'évoquait quand vous parliez, c'était un peu, est-ce que c'est catastrophique si le métier de porteur d'eau disparaît parce qu'on l'a remplacé par la canalisation quand on distribue l'eau. Et je crois qu'effectivement, ces tâches un peu récurrentes, pénibles...
Vous voulez dire que, par exemple, la traduction d'un mode d'emploi pour une machine, puisque ça fait partie de... Vous avez parmi vos clients des gens qui vous demandent de traduire un mode d'emploi en japonais.
Tout à fait.
Ça, c'est un métier qui est quand même pas super marrant à la base. Donc ça, le fait que ça soit fait par une machine, finalement, ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas dramatique.
C'est-à-dire qu'on arrive avec la machine grâce à des phases maintenant où on est rentré dans ce qu'on appelle les neural machine translation, où on fait appel à des neurones artificiels, des techniques de deep learning où l'ordinateur apprend. Donc par exemple, l'ordinateur va comprendre que si vous lui parlez d'une fraise dans un contexte médical, il ne va pas la traduire comme une fraise dans un panier de fruits.
Oui.
Et ça, il est capable donc effectivement de nous faire des traductions beaucoup plus avancées. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la nuance, les traitements des références extralinguistiques, la cohésion n'est pas remplaçable. Et donc toute la validation par les experts reste essentielle. Mais vous entendrez dans ce que je dis qu'effectivement, ça requiert au niveau du traducteur d'avoir une forme d'expertise. Mmh. Alors la machine, elle, quand on va la nourrir...
En fait, de contrôle, hein, enfin de, c'est-à-dire que le traducteur, il est là pour surveiller ce que fait la machine et reprendre toutes les erreurs.
Reprendre le contexte. Hein, la machine, comme on le disait très justement au début de l'émission, on va devoir la nourrir.
Ouais.
Donc on va lui rentrer des lexiques professionnels, techniques, un glossaire. On va même pouvoir lui donner des éléments de contexte, des éléments de ce qu'on appelle de guide culturel. Mais ce corpus va servir à l'entraîner, mais ne va jamais exclure la partie humaine. Ou par exemple, pour vous donner un exemple très concret, il y a un célèbre verset de Baudelaire où il dit « à la très chère, à la très belle » et ainsi de suite. Ben, l'ordinateur aura du mal à comprendre, par exemple en anglais, que la traduction ne va pas être « at the very expensive » pour ceux qui comptent. Donc la très coûteuse.
Ouais. D'accord. Effectivement, pour la littérature, ça reste encore compliqué. Laurence de Villers, qu'est-ce que vous, je sais que vous vous penchez aussi sur cette problématique des métiers de la traduction. Quelle est votre position là-dessus?
La traduction, en fait, c'est un sujet de recherche de mon laboratoire de recherche qui s'appelle le LIMSI à Saclay, qui est extrêmement brillant sur ces sujets. On voit effectivement une grande différence dès qu'il s'agit de textes littéraires ou poétiques sur la qualité qu'on obtient, mais il n'y a pas que ça. Même sur des textes assez communs, on va avoir des problèmes de statistiques et par exemple de discrimination parce que certains termes, les pronoms vont être il ou elle suivant qu'on s'adresse au chirurgien ou si vous voulez à l'infirmière. Donc il y a des termes que la machine va mal traduire parce qu'elle a statistiquement plus d'hommes qui font ceci ou cela et du coup il y a encore énormément de fautes qui sont faites par ces machines. Et alors je suis quand même un peu surprise par une chose qui a été dite.
Ça permet quand même de réduire le nombre d'emplois puisque
Ne laissons pas croire à vos auditeurs qu'on est en train d'imiter le cerveau humain et qu'on a fait beaucoup de progrès grâce aux neuromimétiques. J'en ai fait pour ma thèse en 92 déjà d'utiliser des réseaux de neurones. Il ne s'agit pas de confondre les choses, ce sont des modèles mathématiques très loin d'une vraisemblance liée au cerveau humain. Nous en sommes extrêmement loin.
Oui, ça c'est vrai que pour faire la différence, en général on divise l'intelligence artificielle en deux catégories. On dit l'intelligence artificielle faible et forte. Donc forte, c'est celle qui fait vraiment fantasmer, celle qui pourrait imiter
qui
le cerveau humain.
C'est ça, qui réfléchirait comme des humains.
Non, le gros problème, c'est que en fait, pour imiter quelque chose, il faut le comprendre à 100%. Or, le cerveau humain, on est loin de cette compréhension-là, donc on en est extrêmement loin. Et c'est vrai que quand on parle de neurones artificiels, là, je pense qu'il y a une grosse confusion qui est faite.
Une dernière question à Patricia Glazel, rapidement. Pour l'apprentissage des langues, l'intelligence artificielle, là, est-ce qu'elle a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui?
Alors, elle aura à terme, elle commence déjà à pouvoir, à travers des statistiques, aller au-delà de l'apprentissage, et ça, je trouve ça fascinant, repérer où sont vos points forts, être beaucoup plus subtil et vos points faibles, et la machine va retenir qu'elle doit vous faire réviser un passage, la machine va retenir qu'elle peut vous encourager sur certains aspects, donc elle va devenir un véritable partenaire de l'apprentissage en étant beaucoup plus fine que le professeur d'anglais ou d'allemand actuel qui va déterminer votre niveau et vous faire travailler la grammaire, la diction, etc.
Ouais. Bon, Laurence de Villers n'est pas d'accord.
Attends. Un mois plus tard, dire tiens, je me souviens qu'elle avait fait une erreur, elle n'était pas très bonne à ces endroits-là, ben, je vais lui redonner une petite série d'exercices ou l'entraîner mieux là-dessus.
C'est formidable.
Qui fait que ça met sur mesure votre apprentissage.
Ça existe déjà, Laurence de Villers.
Non, ça n'existe pas de cette manière-là. Là, c'est
les statistiques sur les erreurs, etc. qui prennent en compte
on a
ces
des statistiques, mais de là à dire qu'on en est à...
Je trouve que c'est passionnant de voir cette approche qui devient de plus en plus fine et qu'on voit déjà dans certains exercices produire tout de même. Hein.
Non mais on comprend très fortement votre passion et le marketing qu'il y a derrière tout cela, mais en attendant, l'état de l'art n'est pas à ce niveau-là, les machines ne sont pas conscientes et elles apprennent parce qu'on leur donne les données, on leur fournit ces données. L'apprentissage en ligne où la machine décide seule d'apprendre tel ou tel passage, c'est pas encore au point.
Ça,
et donc, il faut faire attention
données,
à ce que l'on dit.
Non, bien sûr.
Très
très bien. Je parle bien de capture de données, mais la donnée devient de plus en plus sophistiquée à l'égard de l'individu. On est d'accord. En tout cas, ce que je voudrais dire pour conclure, et je laisserai les autres parler, c'est que loin d'éliminer des emplois, on recrute toujours plus, et notre entreprise de traduction voit des croissances formidables, des recrutements formidables. Donc pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, au contraire.
D'accord, mais c'est des informaticiens, c'est ça. Du fait de la globalisation, forcément, et effectivement, ce ne sont pas dans
ce cas-là. Ce ne sont pas des linguistes, là, ce sont des informaticiens. J'espère qu'il y a quelques linguistes, quand même.
Merci à vous, Patricia Glazel de Transperfect, directrice de la formation linguistique. Dans quelques instants, on va prendre le chemin de la Corée du Sud pour rejoindre notre correspondant, Frédéric Ojardias. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler si vous sentez que votre emploi serait à terme menacé. On parle de l'intelligence artificielle. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Nous partons à présent pour la Corée du Sud. C'est l'un des pays les plus connectés au monde, où l'intelligence artificielle remplace les humains pour des emplois dans des secteurs qui peuvent surprendre. Certes, ça reste encore anecdotique. Une entreprise sud-coréenne vend un système automatisé d'entretien d'embauche. On en parle avec notre correspondant à Séoul. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous avez rencontré les concepteurs de ce système. À quoi ressemble un entretien d'embauche mené par une intelligence artificielle ?
Alors, le candidat à l'emploi, il reste chez lui, assis devant son ordinateur et sa webcam, et il répond à une série de questions posées par la machine. Et le logiciel analyse ses réponses, mais aussi sa voix, ses intonations, ses gestes, ses expressions faciales. Et une intelligence artificielle compare ensuite ces informations à celles contenues dans sa base de données, et elle peut déterminer, alors selon ses concepteurs, si le candidat sera un bon employé, s'il est digne de confiance, et même quelle responsabilité lui conviendrait le mieux. Alors, ça ressemble à de la science-fiction, mais ce système est de plus en plus utilisé. Midas IT, la société qui le commercialise, assure avoir plus de 90 clients, parmi lesquels de grandes entreprises coréennes. Ses responsables rappellent cependant que leur logiciel est seulement là pour assister les recruteurs et que, bien sûr, c'est un humain qui prend la décision finale d'embauche.
Et que pensent les personnes qui préparent ces entretiens robotisés ?
Alors, les avis divergent. Les entreprises ont recours à ce robot recruteur parce que celui-ci leur permet de leur faire gagner du temps, de l'argent, mais ce temps, il est simplement répercuté sur les demandeurs d'emploi qui, eux, risquent de se voir obligés un jour de passer à la chaîne des dizaines et des dizaines de ces entretiens automatisés. Et puis, ils vont aussi devoir apprendre à parler à un ordinateur plutôt qu'à un être humain. Et dans la presse sud-coréenne, des candidats mécontents se plaignent déjà de ne pas s'habituer à parler à une machine. L'année dernière, j'ai interviewé un jeune chercheur d'emploi qui, lui, se montrait très positif. Il assure que ce système permet de réduire la discrimination à l'embauche. Je l'ai recontacté il y a quelques jours et il se dit plus satisfait que jamais. Il a passé avec succès 3 de ses entretiens automatisés. Le risque, cependant, c'est un formatage des candidats recrutés parce que le système risque d'écarter les profils les plus créatifs, ceux qui sortent des sentiers battus, des profils qui en fait ne cocheront pas les cases établies à l'avance par le logiciel.
Oui, alors ceci dit, tout le monde ne cherche pas des profils créatifs et qui sortent des sentiers battus. L'intelligence artificielle investit aussi d'autres secteurs en Corée du Sud, Frédéric ?
Oui, Emmanuel, la Corée investit énormément dans l'automatisation. J'ai par exemple visité il y a quelques semaines K-City, c'est une fausse ville qui ressemble à un immense décor de cinéma et qui sert de banc d'essai pour des voitures autonomes, des voitures qui se conduisent toutes seules. Les entreprises coréennes se préparent à automatiser dans un futur proche des services tels que la livraison. Pédale Minjok, qui est la première application smartphone coréenne de livraison de nourriture à domicile, met au point un robot sur roulette qui pourra livrer chez vous pizza, nouilles ou sushi d'ici 3 ans. Une autre entreprise, Dalcom Coffee, a installé à Séoul 45 robots cafetiers qui sont capables de faire de façon automatisée toute une gamme de cafés. De nombreux supermarchés ou chaînes de fast-food ont aussi désormais remplacé leurs caissiers par des caisses automatiques.
Et pourquoi cet enthousiasme pour ces technologies en Corée du Sud, Frédéric ?
Bien, et cet enthousiasme, il s'explique d'abord par le vieillissement rapide de la population, la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et le coût croissant de cette main-d'œuvre. La Corée, c'est le pays le plus automatisé au monde, avec 710 robots pour 10 000 ouvriers en 2017, alors que la moyenne mondiale, c'est de 85 robots. Mais il faut savoir que cette automatisation rapide provoque des résistances. Les syndicats s'opposent par exemple à la prolifération des caisses automatiques et le gouvernement est récemment revenu sur sa décision d'automatiser tous les péages des autoroutes, ce qui aurait provoqué la perte de près de 7000 emplois. Mais le train de la robotisation est en marche et il semble très difficile aujourd'hui de l'arrêter.
Merci beaucoup Frédéric Ojardias d'avoir été en direct avec nous de Séoul. Alors évidemment ça veut réagir dans le studio. Thierry Veil, Laurence de Villers. Thierry Veil, vous voulez réagir?
Oui, je voudrais réagir sur deux points. D'abord sur l'emploi et sur le robot recruteur. Mais sur le robot recruteur, je sais que ma voisine va réagir très fortement aussi. Alors sur l'emploi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que au niveau d'une PME ou d'un pays, l'effet des robots n'est pas négatif, puisque la Corée, notre interlocuteur vient de le rappeler, est le pays le plus robotisé du monde. Et c'est aussi un des pays où le chiffre d'affaires de l'industrie se développe le plus vite, alors qu'il régresse dans la plupart des pays anciennement développés, et où l'emploi industriel, malgré l'automatisation, se développe. Et je disais tout à l'heure
avec
que c'est la
très,
même...
Avec un très fort niveau de qualification aussi
avec
pour les habitants.
Avec un très fort niveau de qualification. J'ai visité des entreprises coréennes il y a un an. La qualification des opérateurs qui vivent au milieu des robots est sensiblement plus importante. Ils font jusqu'à 7 modèles de voitures différents sur la même chaîne en devant s'adapter à des tâches qui varient tout le temps d'une voiture qui arrive à la suivante. Et au niveau des PME, il y a une enquête faite par la BPI France, la Banque publique d'investissement, sur les entreprises qui avaient bénéficié d'un prêt pour s'équiper d'un premier robot. Donc là, on a un échantillon un peu significatif. Et plus des deux tiers de ces entreprises avaient embauché 3 ans après, encore une fois, parce que leur part de marché s'était accrue plus vite que leur productivité. Alors évidemment, tout dépend à qui elles ont piqué le marché. Si c'est à l'entreprise de l'autre côté de la rue, elle a subi... mais l'emploi perdu, il est souvent perdu chez ceux qui n'achètent pas de robots. Et enfin, sur le robot recruteur, on a parlé des craintes qu'on peut avoir de robots qui éliminent les gens créatifs, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, les systèmes de recrutement actuels sont probablement beaucoup plus discriminants parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, contrairement aux machines, ont tendance à écrémer les CV qu'ils vont examiner. À
sur des impressions des gens, subjectives, c'est ça
ou sur des diplômes bien établis, voire sur des choses moins politiquement correctes, comme le quartier où ils habitent, etc. Alors qu'une machine
donc
va pouvoir...
Voilà, vous n'êtes pas affolé par un robot recruteur.
Et un robot recruteur va pouvoir examiner beaucoup plus de gens et donc détecter éventuellement des gens qui, d'après leur CV brut, auraient paru un peu éloignés de l'emploi pour lequel on cherche à recruter, et qui vont révéler dans le dialogue des aptitudes qui fait qu'ils vont être shortlistés. Bon, le dernier entretien doit se faire par des humains, évidemment, mais le panel des gens que le recruteur humain va examiner après son offre d'emploi risque d'avoir beaucoup plus de diversité s'il y a eu un premier filtrage de beaucoup de gens automatiques que s'il y a eu un premier filtrage limiter un petit échantillon parce que fait par des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la puissance des machines, sur des critères beaucoup plus disqualifiants pour des gens de profil un peu original.
Vous êtes d'accord avec ça, Laurence de Villers? Finalement, le robot recruteur pourrait œuvrer pour l'égalité des chances?
Je crois que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que pour l'instant, le robot recruteur, il n'est pas à un niveau de performance qui permet de comprendre la finesse de créativité de quelqu'un. Donc ça va dépendre vraiment des contextes dans lesquels ça sera utilisé. On va devenir transparent devant ces machines. Et donc on va aussi apprendre à répondre à la tâche qui est donnée. Donc plus ça sera informatisé, plus on va aller vers une standardisation et on va vendre aussi, c'est un marché dans les deux sens, on va vendre à la fois ces objets pour les recruteurs et on va les vendre pour s'entraîner chez soi à bien répondre à différentes cases.
Mais donc, excusez-moi, c'est déjà largement le cas. Les gens qui savent, à l'issue de leur bac, candidater dans des formations supérieures sont beaucoup plus entraînés s'ils viennent de familles ayant un grand capital culturel qui ont pu pu les entraîner à passer des oraux ou des écrits et à bien répondre. Et il est possible, une intelligence artificielle introduira probablement des aléas et des biais, mais qu'elle soit capable de repérer, par exemple, des gens très motivés ou qui semblent très cohérents, très sérieux, ayant une certaine sécurité sur oui. eux-mêmes.
Benoît Tonson, vous êtes d'accord avec ça, sur les robots recruteurs, finalement?
Là, en fait, où je pense que c'est... il faut garder en tête quand même que l'intelligence humaine est quand même bien au-delà de ces robots recruteurs. Que ces robots recruteurs, finalement, là, dans l'exemple qui était donné, on va leur donner des règles. Donc, par exemple, si le candidat finit par connaître les règles, on peut tout à fait tricher très facilement, puisque peut-être qu'un des critères va être il nous faut un candidat très souriant. Donc là, moi, si je passe une demi-heure à sourire devant mon écran, je vais avoir une très bonne note. Et en plus, on peut les duper relativement facilement sur l'écrémage des CV. Il y avait des exemples des ingénieurs, des élèves ingénieurs assez malins, qui avaient écrit en blanc sur leur CV, donc avec des choses invisibles, des mots-clés, typiquement anglais impeccable, des compétences qu'ils n'avaient absolument pas. Et comme ça leur permettait de passer le premier écrémage informatique, puisque la machine le voyait.
Ouais. Votre métier est-il menacé par l'intelligence artificielle? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez être remplacé par un logiciel? Et puis, quelles conséquences aussi sociales? Comment vont se reconvertir ceux dont l'emploi sera menacé? Vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71.
I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. Went in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. Went in the pen, every letter you send.
Yo, I've been listening to dreamy days. In disarray, I realize it's everybody else who's still astray. I feel ashamed, I know there ain't no saving away. They went astray, I went Australia, so what I'm supposed to say to them? When all this love's out of range, everything around me changed, I'm supposed to stay the same. Turned down these free drinks I couldn't even name, and that, like all this money, gives a fucking up my brain. I've been going insane, shell full of family remains, broken hearted, seeking none of them again. I pull the glass, stick my head out in the rain, try and find another person I can blame. Sat up on this plane, and yo, I'm praying that we don't crash, cause every night I shiver at the sight when we go back, cause every night could be my last, and yeah, I know that, so I crack a smile for it goes black, trust. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. When wet in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. When wet in the pen, every letter you send.
C'est Loyal Carner chez 7 milliards de voisins. On est ensemble et on discute de ce qui nous attend sur le marché de l'emploi avec l'intelligence artificielle. On en discute avec nos invités, Benoît Tonson du site d'information The Conversation, Laurence De Villers, spécialiste de l'intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne et au CNRS, et puis avec vous Thierry Veil, spécialiste des enjeux de l'industrie à l'école des mines Paris Tech. Message d'un voisin tout de suite posté sur notre WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
Bonjour 7 milliards de voisins, je m'appelle Ambadi Zakaria, je suis étudiant en master recherche en management des ressources humaines à l'université de Ngaoundéré depuis le Cameroun. L'évolution technologique aujourd'hui peut créer, modifier, remettre en cause et voire même faire disparaître des emplois, ce qui nécessite vraiment l'adaptation de chaque employé et cela requiert des investissements en termes tout simplement de formation pour permettre aux salariés de pouvoir s'adapter à ces mutations technologiques. Et n'oublions pas aussi que les salariés au sein d'une entreprise ont des attentes vis-à-vis de leur employeur en termes d'employabilité. Et par conséquent, les DRH particulièrement doivent pouvoir intervenir pour pouvoir accompagner ces salariés-là dans ce processus de changement. Ils doivent, par exemple, connaître les compétences actuelles de leurs salariés, de connaître également les compétences requises pour les postes actuels, de connaître également les compétences que chaque salarié peut développer et des modalités pour y parvenir, et connaître également les compétences des postes nouveaux et des courts postes nécessaires pour le faire tenir. C'est là tout simplement pour permettre aux salariés de pouvoir s'adapter dans ce monde aujourd'hui bouleversé par l'intelligence artificielle. Je vous remercie.
Eh bien, merci à vous, Zakaria, pour ce message effectivement qui pointe du doigt exactement les problèmes qui nous attendent. Il est donc étudiant à l'université Ngaoundéré au Cameroun. Comment vont se reconvertir les personnes qui vont perdre leur emploi, non, d'une certaine manière ?
Énormément de travail avec ces outils d'intelligence artificielle. Hein. On a des entraîneurs, on a des éthiciens nécessaires, des évaluateurs. Les données qu'on va utiliser ne sont pas neutres. Il y a énormément de travail à faire.
La caissière qui a 50 ans, qui a toujours été caissière, elle fait quoi ensuite ?
Elle connaît tous ses produits.
Elle a encore 15 ans à cotiser.
Elle connaît tous ses produits, elle connaît les habitudes des clients. Elle a un fort pouvoir. C'est énorme, en fait, les connaissances. Même quand on est caissière ou même quand on est routier. On a des connaissances métiers. Ces connaissances-là, les machines vont en avoir besoin, elles ne vont pas devenir intelligentes comme ça.
Vous n'êtes pas un peu trop optimiste là, Laurence
Devillers ?
Vous croyez vraiment qu'un PDG à la tête d'un
groupe
de distribution alimentaire se dit que sa caissière a encore quelque chose qui vaut dans son groupe, une compétence qui vaut quand tout va être
automatisé ? J'espère qu'il avait cet avis-là avant de penser à l'IA. Et je pense qu'il va falloir faire cela de façon... en grandeur dans la société. Si vous voulez, si on veut avoir un sens avec ces machines, il va falloir qu'on comprenne mieux ce qu'elles peuvent faire pour nous et qu'on comprenne mieux les capacités de l'humain à côté de la machine. Mmh. Donc, c'est la co...
Ouais. Une machine ne paye pas de charges sociales, hein, quand même.
Oui, mais elle est totalement abrutie.
Thierry Veil.
Elle coûte très cher à développer.
Elle coûte très cher à maintenir, à développer, à réparer. On ne va pas les jeter, on va polluer la planète. Non, mais il faut vraiment prendre conscience de ça. Parce qu'on parle de sujets, j'ai l'impression qu'on est dans des mauvais films de science-fiction, si vous voulez. Là, l'intelligence à avoir, c'est de savoir comment on va coopérer avec ces machines, comment on ne va pas trop polluer la planète, et quels sont les savoir-faire qu'il faut absolument sauvegarder dans la communauté, et comment on fait pour travailler sur cette intelligence collective, l'altruisme, l'intelligence collective de l'humain, des humains ensemble, c'est ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on aura ce niveau AI ready, on pourra faire ce que monsieur disait, on sera peut-être plus ouvert à plus de partage, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas, parce qu'on est dans une espèce de borne qui sont la machine remplace, la machine pourra avoir des capacités qu'elle aura jamais. Donc tant qu'on est dans ces sujets-là, parlons d'éthique, parlons de régulation, parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas la vraie puissance des machines.
Mais jusqu'à maintenant, quand même, les machines permettent aussi de faire des gains, de productivité, de marge. Quand on ne paye pas des traducteurs et qu'on paye un logiciel de traduction, ça veut dire que l'entreprise fait plus de bénéfices, par exemple, Thierry Veil. Et pour vous, pour l'industrie, c'est la même chose.
D'abord, je pense qu'il faut que Zakaria a parfaitement raison. Tout ça crée un besoin de formation absolument considérable. Et d'une manière générale, ce qu'on observe, et ce n'est pas du tout ce qu'on attendait dans beaucoup d'usines, les gens avaient très peur de passer au numérique, avaient très peur de l'arrivée du robot en disant « je vais perdre mon job ». Du coup, leurs encadrants se sont dit « qu'est-ce qu'on peut faire de tel opérateur qui va effectivement, au poste qu'il occupait, être remplacé par un robot ?» Et dans une très grande majorité des cas, ils se sont rendus compte que l'opérateur était capable de faire beaucoup plus de choses que le travail qu'on lui assignait, qu'on lui prescrivait, et la formation numérique, apprendre à servir d'un iPad, c'est pas surhumain, apprendre à contrôler des machines, et encore une fois, on a découvert, et ça n'avait rien d'évident a priori, que dans la plupart des entreprises qui ont investi dans la robotisation, elles ont aussi investi dans la formation, mais elles n'ont pour la plupart, virer personne. C'est-à-dire que leur choix, c'était former ou fermer.
Ça veut dire que ceux qui prédisent que la classe moyenne va être laminée par l'intelligence artificielle, elle l'est déjà avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais que vont perdurer finalement sur un marché de l'emploi des jobs très qualifiés, très très bien payés, avec des gens très créatifs, très diplômés, et puis en bas de l'échelle, ce qu'on appelle un peu des jobs très déclassés, des jobs durs, parce qu'il faudra toujours des gens pour faire le ménage, pour s'occuper de personnes, le soin à la personne, tout ça. Et au milieu milieu finalement? Est-ce qu'il n'y a pas toute une classe qui va être... Non, vous êtes...
Alors bizarrement...
Non, il faut d'abord reclasser, hein, faire les soins auprès des gens, c'est quelque chose de fortement
Non, on n'a pas dit le contraire, mais
hein,
au milieu, entre les deux,
deux
extrémités.
C'est au milieu, très clairement, il faudrait être valorisé économiquement.
Oui, c'est pas parti pour, mais bon.
Mais ça pourrait, parce que les machines vont être très très mauvaises pour faire ça. Et je travaille sur l'intelligence affective, et mettre de l'affectif dans les machines, elles vont être très très mauvaises.
Alors, dans les services, on observe effectivement une polarisation de l'emploi entre des tâches très peu qualifiées et des tâches très qualifiées, et peu de passerelles entre les deux. Si je prends l'exemple d'un cabinet d'avocat, même avec 20 ans d'expérience, le réceptionniste ne passera pas forcément avocat à l'ancienneté. Dans l'industrie, c'est assez différent parce qu'en fait, on observe statistiquement une élévation générale. Donc, des gens peu qualifiés deviennent plus qualifiés, et donc la classe moyenne se remplit plus vite qu'elle ne se vide, et c'est plutôt la classe des peu qualifiés qui aujourd'hui trouve moins d'emplois. Donc il y a un énorme besoin de formation, à la fois initiale et permanente, que, comme le rappelait notre auditeur.
Benoît Tonson.
Je pense que ce que votre auditeur a soulevé, là, c'est la formation. Et je pense que si on prend le cas des pays africains, il y a une réelle chance. L'intelligence artificielle, pour moi, est une réelle chance pour leurs étudiants, leurs futurs salariés, les jeunes. Parce que faire de l'intelligence artificielle, ça ne coûte vraiment pas cher. On peut faire des algorithmes sur un bout de papier. On peut apprendre la théorie sur du papier, voire sur des ordinateurs peu puissants. Et après, ce qui va coûter cher, c'est finalement les super ordinateurs, les super calculateurs. Mais ça... Ils peuvent être tout à fait accessibles par Internet, donc accessibles via un petit ordinateur pas cher. Quoi. Donc c'est,
en fait, on voit arriver maintenant des social makers, comme on dit, qui font des téléphones pour 100€ avec des pièces réparables, et l'Afrique est connue pour avoir cette puissance de frappe sur la réparation aussi des objets. Pour la voiture autonome, on va trouver des voitures autonomes à 5000€ qui roulent et qui vont avoir un ensemble de
pas
choses.
Pas tout de suite pour les routes africaines, hein, peut-être pas.
Ah, attendez, ils sont peut-être plus fins que cela pour travailler. Comment faire
pour les routes indiennes, donc voilà, qui ne sont pas toujours beaucoup plus carrossables.
Non, et je pense que pour l'Afrique, il y a un énorme champ d'action sur l'IA, sur lequel on est conscient en Europe et en Chine et aux États-Unis. Donc il va falloir faire attention à quelles sont les valeurs qu'on met dans ces machines aussi lorsqu'elles prennent des décisions pour nous.
C'est ça, justement, sur le sentiment de frustration qui pourra être créé pour ceux qui seront laissés sur le bord de la route. Hein, c'est vraiment le cas de la bonne image à employer. Est-ce qu'on peut imaginer, comme certains le prédisent, des conséquences sociales désastreuses du gilet jaune puissance 10 000 ?
On aura surtout des moutons si on ne fait pas attention à ce qu'on met dans ces machines. Donc j'ai peur que ça soit pas des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui aient envie du changement, mais plutôt des gens qui soient rabaissés par la machine sans savoir comment sortir de cet état.
Oui, c'est vrai. Donc, que là, pardon, excusez-moi, je pense
Mais alors finalement, vous êtes tous les trois assez techno-optimistes.
Disons que non, enfin techno-optimiste, je sais pas, mais je pense pas que la science va pouvoir tout résoudre. Et ça, c'est à l'humain de le faire. Et c'est là où je suis optimiste plutôt d'un côté humaniste que technologiste. On est beaucoup plus intelligent qu'une machine et on le sera encore bien, bien longtemps.
Moi, je crois que c'est cette interdisciplinarité. Hein. On n'est pas technophile. Moi, je suis pour une pluridisciplinarité forte. Comprendre les conséquences des objets qu'on met en œuvre et comprendre qu'il y a des valeurs que l'on code dans une machine et qu'il faut les surveiller. On parle d'éthique de plus en plus et c'est très bien.
Ouais, ça, vous partez du principe qu'il faut que tout le monde soit super éduqué et puis surtout pas forcément uniquement à pro-gain immédiat.
Bah, écoutez, on a une planète à surveiller aussi, des enfants, une éducation, une formation à faire. Je pense que ça serait un petit peu dommage d'oublier cette partie-là. On irait sûrement des catastrophes.
Mais je pense que sur le côté environnement, pardon, il faut garder en tête que ces fameux serveurs qui servent à Facebook, à Google sur l'intelligence artificielle consomment une énergie absolument folle et c'est assez désastreux sur l'environnement. Donc il faut faire très attention, je pense, à ça. Ouais.
Donc sous-entendu, ne nous emballons pas trop vite pour l'intelligence artificielle, Thierry Veil ?
Les technologies sont des outils qu'on peut utiliser bien ou mal selon la manière dont on les encadre. Vous donniez l'appel à un homme des cavernes, il s'en servait pour tabasser le voisin, mais ça peut aussi servir à creuser des trous et à faire des choses utiles. Les technologies d'intelligence artificielle sont des outils beaucoup plus sophistiqués que ceux qu'on a connus. On peut faire un bon usage des outils, que ce soit individuel ou social, ou on peut en faire un mauvais usage, et ça, tout dépendra de la manière dont tout ça sera régulé et dont chacun s'appropriera ses outils.
Évidemment, il faudra qu'on se revoie dans quelques temps hein, pour discuter des évolutions. Ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui et on ouvre la porte sur l'inconnu. Merci à tous les trois. Benoît Tonson du site The Conversation. Merci à vous, Laurence De Villers, des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités. Merci. C'est publié chez Plon. Et merci à vous, Thierry Veil, spécialiste de l'industrie à l'école des mines ParisTech. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, un métier qui, pour l'instant, n'est pas menacé par l'intelligence artificielle, quoique la cuisine, notre rendez-vous mensuel avec les Afro-Cookers, et on parlera des épices dans la cuisine. Le palais de